Du samedi 5 au dimanche 6 octobre 2002, faire sa trace. Un grand parking de sable, plusieurs tentes, quelques petites constructions en terre. Difficile d'imaginer que nous franchissons une frontière encore disputée. Accueillis par des militaires entre Yi et Tong, nous trouvons l'ambiance plutôt détendue. Nous venons de traverser le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole dont le Maroc et le Front Polisario se disputent toujours le territoire. En Mauritanie, la route goudronnée disparaît peu à peu. La nature reprend ses droits. Il faut désormais zigzaguer sur cette poudre dorée pour avancer. Nous laissons derrière nous une trace sinueuse qui disparaîtra rapidement. Plus de goudron, plus de route à suivre, nous sommes entourés de sable. Le légumier secoue de plus en plus. La poche à eau suspendue en l'air fait des tours sur elle-même, pendant que le thé continue à bouillir dans la petite théière. Émerveillés par le paysage alentour, nous profitons des trous découpés dans la carrosserie de la camionnette pour nous imprégner du désert. Entre deux bouffées de sa pipe mauritanienne, Salim Fall partage avec nous sa vision de la vie. Les yeux de ton prochain sont ton miroir. Tu ne peux pas lui vouloir de mal. C'est de là que vient la paix. Selon lui, la paix est un devoir. Il ajoute pourtant, si quelqu'un tue son prochain, il faut alors le tuer car son geste signifie qu'il est mauvais et qu'il pourra recommencer. Le regard perçant de cet homme, sa prestance majestueuse emplissent cet espace vierge que nous traversons. Tels de jeunes élèves, nous l'écoutons, lui posons des questions et lui faisons part du peu d'expérience que nous avons sur le chemin de la vie. Les heures passent, l'échange se poursuit. Certains sujets délicats sont abordés. Il est très critique vis-à-vis des Juifs. Il nous persécute en parlant des musulmans en général. Ses premières paroles sur le regard de l'autre nous avaient rappelé à tous les deux les longues heures passées en prépa à étudier la philosophie d'Emmanuel Lévinas, de confession juive. Nous rêvions alors de grands espaces, de traversées, de voyages, de rencontres. Nous étions loin d'imaginer que sa philosophie serait abordée par un Mauritanien musulman, sans même que celui-ci le sache, au cœur du Sahara. Salim remplit la petite extrémité conique de sa pipe. Deux, trois bouffées suffisent à consumer son contenu. L'épaisse fumée blanche qu'il recrache habille ses propos. De longues pauses, entre chaque phrase, nous permettent de réfléchir sur les derniers mots prononcés. Nous croisons un 4x4 sur la route. Mohamed, notre chauffeur, s'arrête pour discuter avec l'un des trois passagers à l'avant. Quatre autres Mauritaniens sont assis, au-dessus de gros sacs de marchandises sur la plateforme arrière. Nous apprenons vite que ce véhicule est celui qui nous mènera à Nouakchott. Mohamed a négocié ce trajet pour nous. Nous lui réglons l'ensemble du voyage et saluons notre ami Salim. Les tandems sont arrimés sur les côtés du véhicule. Les sacoches nous accompagnent à l'arrière. Il doit être 10, 11 heures du matin. Nos compagnons de route, peu bavards, se sont assis au plus près de la cabine. Nous comprenons vite ce choix. Le 4x4, conduit de main de maître, change de rythme régulièrement. Les quatre roues motrices forcent le passage là où il risque de s'enliser. Sur le sable tassé, il roule à bonne allure en passant à deux roues motrices. La vitesse permet alors de ne pas ricocher sur les ondulations de la piste. Les secousses s'estompent, le moteur est coupé. Le chauffeur et son copilote nous demandent de descendre pour les rejoindre un peu plus loin. Nous nous asseyons en cercle et ils nous font part de leurs problèmes. Ils assurent ne pas avoir été payés pour l'excédent de bagages lié au tandem. Ils réclament une somme importante. Nous leur faisons comprendre que tout avait été convenu avec notre premier chauffeur et que nous ne pouvons pas compléter. Après plusieurs minutes de négociation, le prix demandé baisse. Il reste cependant trop élevé. Il nous laisse face à une alternative. Payer un supplément pour les bagages ou descendre. Nous n'avons pour tout argent que les euros nécessaires pour notre aventure en Mauritanie. Sans possibilité de retrait dans ce pays, nous sommes limités par le montant que nous pourrons changer. Jean-Christophe a la bonne idée de relancer la discussion dans une autre direction. Il raconte notre aventure depuis le départ, expliquant la raison de notre présence parmi eux, notre venue en Mauritanie, illustrant ses propos en traçant des dessins sur le sol. Au bout d'une demi-heure de palabre, nos deux interlocuteurs se lèvent sans mot dire pour rejoindre le véhicule. Nous les suivons et reprenons place. Aucune décision n'a été prise. Nous savons juste que chaque mètre nous rapproche un peu plus de Nouakchott. Les autres passagers se sont tous allongés, sans nous laisser la place pour faire de même. Nous changeons de cap régulièrement afin d'éviter un ou plusieurs bancs de sable. Nous croisons à plusieurs reprises des véhicules que nous avions vus lors du passage de la frontière. Certains se sont enlisés à quelques mètres seulement d'où nous passons et peinent à se dégager. Un 4x4 chargé comme le nôtre ne peut plus s'en sortir seul. Nous arrivons à le dégager à l'aide d'une corde. Celle-ci casse plusieurs fois sous l'effet de la traction exercée. Les deux extrémités rompues sont nouées ensemble et les efforts reprennent. Il est finalement remis sur piste. Son moteur montre des signes de faiblesse lorsqu'il doit retourner à plein régime pour surmonter les obstacles. Il n'y a plus le choix. Tous les passagers prennent place à nos côtés afin de l'alléger. La puissance de notre véhicule permet de transporter plus de 15 personnes à bord, deux tandems, des marchandises et de tracter un autre 4x4. La journée semble toucher à sa fin. Nous apercevons au loin une tache sombre. Celle-ci s'agrandit à mesure que nous nous en approchons. Plusieurs voitures se sont rassemblées autour de quelques tentes. Nous nous arrêtons également dans cette station-service située sur l'autoroute du désert. Le chauffeur et son collègue nous demandent de nouveau de venir les voir. Les discussions reprennent au point de départ. L'alternative est la même, payer ou rester sur place. Fort des derniers arguments développés, nous continuons à insister. Nous n'avons pas d'autre choix que de leur proposer nos derniers dirhams ou de sortir un gros billet en euros. Cette dernière possibilité nous ferait perdre non seulement une somme importante, mais aussi beaucoup d'argent sur le change. Je finis par lui sortir le portefeuille et lui vider dans le sable tout son contenu, l'équivalent de 1 € en dirhams. « Tu as déjà été payé pour nous emmener à Nouakchott. C'est tout ce que nous avons. » Dédaigneux, il nous quitte pour prendre un coca sous une tente sans prendre l'argent. « Vous, les Européens, vous êtes des richards, » nous avait-il dit au préalable. Notre présence en ces lieux leur donne en partie raison. Nous leur montrons que nous avons aussi nos limites. Nous ne pouvons dépasser notre budget transport si nous souhaitons faire du tandem avec des aveugles, raison de notre venue en Mauritanie. Nous restons proches de la voiture afin de ne pas la laisser partir sans nous. Le dîner est improvisé avec nos derniers vivres marocains. L'assaisonnement craque sous les dents. Un léger vent vient saupoudrer les sandwichs de sable. La voiture repart. Ouf ! Nous sommes à bord avec les tandems et les bagages. Nos interlocuteurs semblent nous ignorer. Mohamed, un jeune Mauritanien, s'amuse de nos difficultés à trouver une position moins inconfortable. Bien calés contre la cabine du véhicule, nos voisins nous laissent le privilège de tressauter avec les bagages au rythme du relief. Les bonds atteignent parfois 1 mètre. La sacoche renfermant l'ordinateur portable et le violon m'inquiète. Dès que je le peux, j'essaye d'amortir ces secousses, ce n'est pas toujours possible. La nuit est tombée, rien ne nous arrête. Le paysage continue à nous envoûter. Il est pourtant facile à décrire. Du sable, des dunes et rien d'autre. Nous sommes entourés d'une nature vierge. Chaque panorama est un instantané. Un coup de vent et la donne est redistribuée. Nos compagnons de route se protègent du vent, du soleil et du sable sous leurs draps et leurs longs turbans enroulés sur la tête. Il est 5 heures du matin quand le 4x4 dépose passagers et marchandises à Nouakchott. Désormais seuls avec nos tandems, nous découvrons la capitale de nuit. Des ânes sont attachés dehors. Des chiens errants ont le nez dans les détritus qui jonchent la rue quand ils n'essayent pas de nous attaquer. Nous cherchons le centre-ville pour y trouver une auberge. Personne pour nous l'indiquer. Nous finissons par rencontrer quelqu'un dans cette cité de sable. « Où est le centre-ville ?»« Vous y êtes ?» nous répond-il. Nous arrivons du Maroc et cherchons une auberge pour terminer la nuit. En connaissez-vous une à nous indiquer ? Suivez-moi. Ousmane est gardien de nuit dans un parking. Il termine juste de travailler. Il nous conduit chez lui, une simple pièce qu'il louait à une famille modeste. Trois nattes posées sur une dalle de béton, quelques coussins. Nous sombrons très vite dans un profond sommeil. Le Maroc nous paraît déjà loin.